Une heure en France, Denis Farrou, Frédéric Le Tournier.
Bonjour à tous et bienvenue. Bonjour Denis Farrou.
Bonjour Frédéric Le Tournier.
Aujourd'hui, on découvre l'histoire d'un château en ruine en Vendée. Le loto du patrimoine va lui venir en aide. Ensuite, on fait la carte de France des pins de nos régions. Et enfin, on part en voyage entre copines.
Et on se géolocalise avec le système européen Galileo qui fait en ce moment son milliardième utilisateur face au GPS américain qui domine le marché. Nous recevons Jean-Yves Le Gall, le président du CNES, le Centre français d'études spatiales.
Et on commence avec l'info de ce mardi 10 septembre avec Simon de Faucompré. Bonjour Simon.
Bonjour Frédéric, bonjour à tous.
Il faut lever le voile sur la catastrophe du vol Ajaccio-Nice.
Mais son crash a fait 95 morts en 1968. Emmanuel Macron demande la déclassification de ce dossier sensible.
Et sensible vu que les proches des victimes n'ont jamais cru à l'accident.
Ah non, ça clairement pas. Pour eux, c'est un tir accidentel de missile qui a touché l'avion. Si le secret défense est levé, ils auront enfin des réponses. Mathieu Paoli, président de l'association qui les rassemble.
C'est une avancée très très importante pour nous. Enfin, 51 ans de souffrance pour toutes ces familles qui attendent de connaître cette vérité que nous connaissons d'ailleurs déjà, mais pour au moins que ça soit dit officiellement et que ce secret défense soit enfin levé pour pouvoir dire oui, la justice reconnaît enfin ce tir de missile. Toutes ces familles qui ont disparu, qui avaient des enfants dans l'avion, 13 enfants dans l'avion, vous vous rendez compte ? Et toutes ces mères de famille, ces pères qui sont décédés sans connaître cette vérité, c'est triste, vraiment triste.
Il y a une lueur d'espoir, hein, quasiment 51 ans jour pour jour après le crash. Un article est à lire sur francebleu.fr. Tariq Ramadan dévoile l'identité d'une femme qu'il accuse d'agression sexuelle. Son nom complet apparaît 84 fois dans son prochain livre.
Le titre, c'est « Devoir de vérité ». Il devait sortir demain en l'état, mais c'est le tribunal qui va trancher.
Ouais, une audience a démarré ce matin à Paris. La plaignante veut qu'on efface son nom et qu'on le remplace par un pseudonyme Christelle. Du jamais vu depuis plus de 15 ans, tous les syndicats de police appellent à une marche de la colère le 2 octobre à Paris. 48 agents se sont suicidés depuis le 1er janvier, c'est beaucoup plus que sur tout 2018.
Et un nouveau numéro vert avec des psychologues au bout du fil a été mis en place hier.
Des composants peut-être défectueux sur des réacteurs nucléaires, annonce EDF qui mène l'enquête aujourd'hui sans préciser sur quelle centrale. L'autorité de sûreté nucléaire, la SN, a été prévenue tard hier soir. Nos voitures responsables d'un dixième de l'effet de serre mondial, constate Greenpeace dans un rapport paru ce matin dans le viseur de l'ONG Anne-Laure Barral. Ces grosses voitures de plus en plus appréciées, les SUV.
Notre appétit pour ces grosses cylindrées plombe les efforts pour le climat. Aux États-Unis, les SUV, les Sport Utility Vehicles, représentent 69% du marché. L'Europe prend le même chemin avec des ventes multipliées par 4 en 10 ans. Alors ne dites pas à Greenpeace que ce sont des véhicules propres, même si certains ont des vignettes critères 1 en France. Parce que leurs filtres sont plus performants, notamment pour les grosses particules mauvaises pour nos poumons. En revanche, en matière d'émissions de CO2, ce n'est pas ça. Et c'est Volkswagen qui a la plus grosse empreinte carbone, suivie par Renault-Nissan sur les 12 constructeurs étudiés. Un rapport qui tombe à pic au moment où les parlementaires vont de nouveau examiner l'encadrement des publicités pour ces gros véhicules. Il est question qu'elles portent une mention pour le climat, privilégier les transports en commun, un peu comme manger bouger pour les produits trop gras, trop sucrés ou trop salés.
Et une vingtaine de membres de Greenpeace ont manifesté c'était ce matin à Francfort pour l'ouverture du salon automobile.
Michael Schumacher, hospitalisé en toute discrétion à l'hôpital parisien Georges Pompidou hier. On ne sait rien du traitement qui attend l'ex-champion de Formule 1 jusqu'à demain, ni de son état de santé global d'ailleurs, depuis son grave accident de ski il y a 6 ans. Milliardième utilisateur, champagne, hein, le cap passé aujourd'hui par le système de navigation européen Galileo, une montée en puissance face au GPS américain.
Est-ce que vous savez, Simon et Frédéric aussi, quel système vous utilisez avec votre smartphone?
Absolument pas.
Pas du tout.
Moi j'appuie sur le bouton, il m'emmène.
Eh bien vous le saurez tout à l'heure, nous saurons dans un instant avec le président du CNES, le Centre d'études spatiales et du GSA, le système européen de navigation. Le siège du GSA est à Prague, nous allons donc à Prague.
Et avant Prague, un tour dans nos stades de Denis Frédéric, la Fédération française de football demande aux arbitres de ne plus arrêter les matchs pour des chants ou banderoles homophobes.
L'inverse en gros de ce que veut le gouvernement et la ministre des Sports, Roxana Maricinanu.
Eh oui, mais à cause de ça, on arrête trop de matchs, hein, juge le président de la FFF, Noël Le Graët. Une erreur selon lui.
J'arrêterai pas les matchs. Le football reçoit tout le monde, toutes les classes sociales. Tous les joueurs qui veulent ou joueuses qui acceptent de jouer au ballon sont parfaitement bien reçus dans nos clubs et dans nos stades. Je suis contre totalement, mais je ne veux pas être pris en otage sur l'homophobie. Il n'y a pas d'omerta, il y a une volonté farouche de faire en sorte effectivement qu'on puisse être sur un stade de façon très digne et tout à fait amicale et en famille. Mais l'arrêt des matchs ne m'intéresse pas. J'arrêterai un match pour des cris racistes, ça c'est clair. Pour une bagarre, pour des incidents, si il y a un danger quelque part dans les tribunes.
Une réaction qui a surpris la ministre des Sports. Frédéric, vous savez la ministre des Sports ?
Vous voulez que je redonne son nom ? Je me suis un peu loupée. Donc Roxana Maraciné à nous.
C'est ça. C'est mieux, Noël, hein. C'était donc Noël Le Graët, ce matin sur France Info.
Et en réaction, le collectif anti-homophobie dans les stades, Rouge Direct, appelle à sa démission. Rouge Direct qui était d'ailleurs notre invité dans Une Heure en France il y a quelques jours.
Et sur la pelouse du Stade de France, un match des Bleus à suivre ce soir. France Andorre pour les qualifications à l'Euro 2020. On vous fait vivre la rencontre en direct sur France Bleu dès 20h30.
Et vous écouterez, Frédéric, à défaut de regarder le match, les hymnes avant le match.
Les bons hymnes.
Les bons hymnes.
Andorre, France, et non pas
Géorgie.
Mais surtout, je regarde ce que je veux, messieurs.
Ah oui.
Je vous dis une bonne journée, Simon. On se retrouve demain.
À bientôt.
À bientôt. Bonne journée. Merci, Simon.
FranceBleu.fr. Toute la musique de France Bleu, quand vous voulez, où vous voulez, comme vous voulez.
Tout France Bleu est sur francebleu.fr. France Bleu aime Morceau d'amour, le nouveau Marc Lavoine.
Je t'écrirai les chansons d'amour avec dedans des mots d'amour. Les chansons qu'on dit d'amour, t'as toujours été pour. Je t'emmènerai au bord de la mer, respirer l'air de la mer. Comme tu dis, pour changer d'air, y'a pas mieux que la mer. Si tu veux changer de coiffure, je t'emmènerai au salon.
Morceau d'amour, Marc Lavoine, un coup de cœur France Bleu.
C'est l'heure de la météo sur France Bleu, Frédéric Le Tournier. Pourquoi vous rigolez?
C'est parce que vous n'y étiez pas, que vous étiez en train d'écrire des trucs. Mais oui, c'est l'heure de la météo, je vais vous la donner. Des remontées pluvio-instables concernent toutes les régions s'étendant du Roussillon jusqu'à la Provence. De bons cumuls de pluie sont attendus notamment dans le Var, les Bouches-du-Rhône et le Gard. Entre le sud de l'Aquitaine, Midi-Pyrénées et le sud de l'Auvergne-Rhône-Alpes, aucun espoir d'éclaircie pour cet après-midi. Plus au nord, sur la Bretagne et près de la Manche, de petites averses sont encore possibles. Sur le reste de la moitié nord, le temps s'améliore et les nuages laissent place au soleil. À Lille, il fait 21, à Strasbourg aussi, à Blois 22, à Nîmes 16 degrés pour cet après-midi. Alors ce midi, on sort notre smartphone et on vérifie quel système de localisation nous utilisons. L'ultra dominant GPS américain ou le système européen Galileo qui fête son 1 000 000e utilisateur aujourd'hui. Le président du CNES et de la GSA, l'agence européenne de navigation par satellite, basée à Prague, est avec nous depuis la République tchèque.
Bonjour Jean-Yves Le Gall.
Bonjour.
Merci d'être avec nous depuis la République tchèque. 300 millions d'utilisateurs pour le système européen il y a un peu plus d'un an, 1 milliard aujourd'hui. Comment on arrive à une telle augmentation avec beaucoup plus de satellites ?
Non, les satellites sont en orbite depuis plus d'un an. Il y a 26 satellites qui marchent parfaitement. Mais on arrive à une telle augmentation parce que les fabricants de smartphones ont décidé que lorsque le smartphone que vous achetez dans le commerce reçoit plusieurs signaux GNSS, donc Galileo l'européen, GPS l'américain, GLONASS le russe, Baidu le chinois, eh bien le smartphone se verrouille automatiquement sur le signal qui est le plus précis. Et comme Galileo est plus précis que tous les autres, eh bien, le smartphone se verrouille automatiquement sur Galileo. Et comme chaque mois, il se vend entre 30 et 50 millions de smartphones dans le monde entier, eh bien, chaque mois, on a 30 à 50 millions d'utilisateurs de Galileo de plus.
Donc, ce que vous nous dites, la différence entre le GPS américain et l'européen Galileo, c'est la précision.
J'ai la précision. Avec Galileo, pour fixer les idées, j'ai l'habitude de dire qu'on peut voir de quel côté de la rue on se trouve, alors qu'avec le GPS, on sait uniquement dans quelle rue on est. Et donc, cette précision, qui est à peu près 5 à 10 fois meilleure que celle du GPS, eh bien, ça permet de nombreuses applications que le GPS ne permettait pas. Alors, parmi celles dont on parle, il y a bien sûr le pilotage des trains, parce que avec le GPS, vous savez où vous êtes sur le territoire. Avec Galileo, vous savez sur quelle voie ferrée vous êtes. C'est utile si vous voulez piloter un train. Et puis, pour le véhicule autonome, eh bien, Galileo permet de faire des créneaux, alors que le GPS ne le permet pas. Et donc, vous avez un développement considérable des applications de Galileo qui se profilent devant nous.
Oui, vous avez parlé des trains, vous avez parlé des créneaux en voiture. Il y a également les camions, hein, les poids lourds, qui sont
les systèmes camions, est intégré. Bien sûr, les camions qui sont connectés à Galileo, on peut parler aussi de l'aviation. Il y a vraiment une utilisation considérable qui va se développer de ces signaux de positionnement par satellite et du fait de l'extraordinaire précision de Galileo.
Alors, je ne sais pas si c'est très intéressant pour l'utilisateur, les utilisateurs que nous sommes, mais est-ce que l'on peut savoir quel GPS on utilise en fouillant dans notre smartphone ?
Oui, bien sûr, sur votre smartphone, vous avez une petite application, une application GNSS en général, vous la chargez et puis ça vous montre tous les satellites qui sont visibles par le smartphone et ça vous dit sur quel signal vous êtes verrouillé. Et faites-le, vous verrez, ça marche très bien, mais vous vous en rendez compte parce que dans la ville, à Paris par exemple, eh bien quand Galileo a été mis en service et que les smartphones se sont branchés sur Galileo, on a vu quand même la différence. Moi, mon bureau est au Forum des Halles. Quand j'avais le GPS, j'avais un cercle bleu sur le Forum des Halles. Maintenant, j'ai un cercle bleu sur l'immeuble où se trouve le CNES.
D'accord.
Et ça, c'est Galileo.
Ouais. Vous allez fouiller votre smartphone,
Frédéric.
Il faut télécharger,
Frédéric, oui. Hein,
pour vérifier. J'ai noté ce chiffre. 156 modèles de smartphones sont actuellement compatibles avec Galileo. Est-ce que tous les nouveaux qui sortent sont compatibles ?
Bien sûr. Bien sûr, parce que ce sont de nouvelles normes et tous les smartphones reçoivent donc ces quatre systèmes de positionnement. Mais comme Galileo est le plus précis, et je dirais pour longtemps, parce que quand même, pour améliorer la précision d'un système GNSS, il faut des années. Et on voit bien que les concurrents, eh bien, n'ont pas encore cela dans leur carton. Je pense que Galileo va faire la course en tête pour longtemps.
Eh bien, on est ravis de souligner cette initiative d'une Europe unie. C'est pas tous les jours que l'on peut dire ça à propos de Galileo qui fête son milliardième utilisateur. Donc, qu'est-ce qu'on vous souhaite ? Bon anniversaire à Prague, Jean-Yves Le Gall.
Oui, d'autant plus que nous fêtons, le hasard fait bien les choses, les 15 ans de l'agence Galileo à Prague. Donc, 15e anniversaire, 1 milliard d'utilisateurs, c'est absolument fantastique.
Merci à vous.
Merci Jean-Yves Le Gall, président du GSA, l'Agence européenne de navigation par satellite, et du CNES, le Centre national d'études spatiales, en direct de Prague, dans Une heure en France. Merci à vous.
Une heure en France, Denis Farrou, Frédéric Le Ternier.
Et nous repartons en balade jusqu'à 14h, avec un stop en Vendée pour découvrir les ruines du château de l'Étenduère, château qui a été sélectionné pour le loto du patrimoine de Stéphane Bern.
Il est même en photo sur les billets de grattage, le château. Enfin, du moins ce qu'il en reste.
Ensuite, on va s'intéresser aux différents pins de nos régions. Et à chaque région, sa spécialité, c'est une passion nationale.
Ils ont tous un nom, hein. Le porte-manteau de Toulouse, le tordu du Gers, le cordon de Bourgogne, le pin chapeau du Finistère, où j'ajoute la baguette parisienne. Comme ça, vous en connaissez au moins un.
Et puis, on va partir en voyage entre copines. Une alternative plutôt réjouissante.
Avec l'agence Copine de Voyage. C'est donc pour vous et pas pour moi.
Vous avez tout compris, Denis. Une heure en France ensemble, c'est jusqu'à 14h. Et on va commencer par prendre de la hauteur avec Calogero.
J'arrive à me glisser juste avant que les portes ne se referment. Elle me dit quel étage et sa voix me fait quitter la terre ferme. Alors, les chiffres dansent, tout se mélange. Je suis en tête à tête avec. Que ascenseur. J'arrive à me glisser juste avant que les portes ne se referment.
Denis et moi espérons vous faire le même effet qu'Allo et vous laisser en apesanteur jusqu'à 14h dans Une Heure en France.
Une Heure en France, Frédéric Le Ternier, Denis Farroux sur France Bleu.
Et on le sait maintenant, Stéphane Bern et son loto du patrimoine viennent en aide à des monuments en danger.
C'est le cas en Vendée, aux Herbiers. Les ruines du château de l'Étenduère ont besoin d'être consolidées.
Et ce château ne doit absolument pas disparaître, d'autant qu'il a une histoire. Et on la découvre ce midi avec le président de l'association Passion Patrimoine qui s'est occupé de défricher les ruines. Bonjour Luc Soulard.
Bonjour.
Dites-nous, de quand date la construction du château et qui en avait passé commande ?
Alors, le château est à l'origine un simple hébergement, ça date du XIVe siècle,
oui.
Qui a été ensuite fortifié avec des canonnières, pont-levis au XVIIe siècle, puis rénové suite à une probable destruction début XVIIIe, dans un style Renaissance.
Alors, avant de voir ce qu'il en reste aujourd'hui, au XVIIe, XVIIIe siècle, c'était l'un des plus bels ensembles de la région.
Tout à fait. C'était une des plus belles constructions, une des plus belles maisons de la région, avec plus de 30 pièces à l'époque. Donc c'était vraiment quelque chose de conséquent.
Et Luc Soulard, vous m'avez pas dit qui a passé commande de ce château, du coup.
Alors, passé commande initialement, j'en ai pas la trace. Je le sais actuellement pas. Une personne très importante qui l'a habité, c'était l'amiral Henri François de l'Étenduère.
D'accord.
Un amiral, donc qui s'est illustré par sa participation à de nombreux combats et des missions de repérage sur les côtes américaines.
Et comme tous les châteaux, il y a des histoires, il y a des légendes. Elle est longue à raconter, la légende de la demoiselle?
Elle est assez longue.
Ah.
C'est vrai que voilà, c'était une demoiselle transformée en biche qui a été tuée et enterrée normalement sous une stèle qui existe encore. Voilà, ça c'est bel et bien une légende.
Ouais, ah bah là vous l'avez bien synthétisé.
Vous l'avez raconté rapidement, bravo.
Et la stèle, on peut encore la voir ?
Ah oui, tout à fait, oui. Ah bon, elle est à quelques centaines de mètres de l'actuelle des ruines du château de l'Étenduère. Ouais.
Alors, vous parlez de ruines. Qu'est-ce qui reste précisément du château de l'Étenduère, Luc Soulard ?
Alors, il reste une façade et en fait trois pans de mur. Hein, toute la façade avant a été détruite par les colonnes infernales de Grignon en janvier 1794.
D'accord. Et aujourd'hui, ces façades sont en mauvais état. Les pierres menacent de tomber.
Tout à fait. Si rien n'est fait aujourd'hui, c'est vrai que c'est quelque chose qui va disparaître très rapidement parce que l'érosion est bien présente et c'est vraiment sujet à une dégradation avec le temps. Oui.
Alors l'idée, ce n'est pas de reconstruire le château, mais de consolider, de figer, comme on dit, ces ruines.
Voilà. Tout à fait. L'idée, c'est de geler les ruines pour stopper la dégradation, consolider les douves, les murs de soutènement dans les douves qui sont en dessous, et puis reconstruire une arche manquante pour rendre le libre accès au public sur le site de l'Étenduère.
Et ça, Luc Soulard, on se rend pas bien compte, nous. C'est très coûteux, ces travaux ?
C'est très coûteux. L'enveloppe totale pour sécuriser l'ensemble et le gel des ruines s'élève à près d'un million d'euros. Un peu moins, mais pas loin. Ouais.
Et le fait que ces ruines apparaissent sur le jeu de grattage.
L'auto du patrimoine.
Ouais, c'est un petit plus. Tout le monde va connaître les ruines du château des Herbiers.
Alors c'est un plus et c'est surtout une récompense parce que l'association de laquelle je fais partie, Passion Patrimoine, a redécouvert le château qui était complètement enfoui dans la végétation depuis de nombreuses années. On avait presque oublié qu'il était là, on passait devant tous les jours sans ne plus le voir. On s'est relayé tous les samedis matins pendant près de 2 ans. On l'a remis à la vue des herbotais et des touristes. Et la municipalité des Herbiers a pris le relais en déposant un dossier à la mission Berne. Le site a été élu dans les 18 projets emblématiques pour le loto du patrimoine. Et ça a été pour nous une récompense à notre travail et j'en suis sûr un encouragement pour notre association et toutes les associations qui œuvrent pour le patrimoine.
Et ça fait du bien. Et Luc Soulard, une fois que tout sera consolidé, si tout va bien, est-ce qu'on pourrait envisager pourquoi pas des spectacles en plein air avec le château comme décor de fond?
Peut-être. Une chose est sûre, la municipalité a évoqué le fait de créer un théâtre de verdure plus tard. Certainement, oui, j'imagine que des choses seront mises en scène. Ça l'est déjà pour... Il y a un rendez-vous annuel qui se fait tous les 14 juillet. Le château est maintenant mis en lumière et puis voilà, l'artifice est tiré et tous les arbres se réunissent autour à proximité du site pour y passer une soirée.
Ouais, bonne suggestion, Frédéric Le Ternier, de faire des spectacles, un théâtre de verdure. Luc Soulard, président de Passion Patrimoine.
Merci beaucoup de nous avoir parlé de ce château. On sent que vous l'aimez, vous en parlez très bien. Merci Luc Soulard.
Merci beaucoup.
Bonne journée, à bientôt.
Merci, au revoir.
Au revoir. Nous jouons pour un support de téléphone portable France Bleu. Donnez-moi le nom de cette spécialité vendéenne. Pain peu levé, garni d'ail frais et finement haché de beurre. Ça se consomme généralement à l'apéritif et ça tombe plutôt bien parce qu'on va continuer de parler des pains de nos régions dans une heure en France.
Tout ça est pensé.
Vous avez remarqué, hein, j'ai travaillé. Vous nous appelez 0810 055 056. Le nom de cette spécialité vendéenne, un pain peu levé, garni d'ail frais et finement haché de beurre qui se consomme généralement à l'apéritif. Et puis vous restez avec nous dans quelques instants. On va rester évidemment dans l'univers des pains, mais ensuite on va tester. Ça, je sais que ça vous parle, hein, Denis Farou. On va tester le voyage entre copines. Pourquoi
c'est cela,
pas
oui.
Une heure en France avec vous jusqu'à 14h avec de la musique aussi. Et cette chanteuse américaine, Lauren Daigle, You Say.
I keep fighting voices in my mind that say I'm not enough. Remind me once again just who I am because I need to know.
Et moi, ça me fait quelque chose. Mais bon, je suis une romantique.
Joli piano.
C'est beau, hein. Lauren Daigle, elle est américaine, elle a 26 ans. On la découvre en France, elle est déjà très connue aux États-Unis. Son titre, c'est You Say. Stéphanie est avec nous. Bonjour Stéphanie.
Bonjour.
Vous connaissiez, vous, Lauren Daigle, qu'on vient d'entendre?
Oui, je connaissais, oui.
C'est beau, elle chante bien.
Hein. C'est magnifique, magnifique.
Ça rappelle un petit peu Adèle, je trouve.
C'est vrai, ouais, tout à fait, c'est dans le même esprit.
Stéphanie, vous êtes au Lavandou.
C'est ça.
Donc, il fait pas très beau aujourd'hui, non?
Non, il pleut, mais la pluie, la bienvenue.
Oui, hein, ça fait un moment qu'il n'avait pas plu.
Exactement.
Stéphanie, quel est le programme de votre journée, en dehors de nous écouter, ce qui est déjà une très bonne chose?
Eh bien, je viens d'arriver au travail.
Vous faites quoi dans la vie, Stéphanie?
Je suis chargée de clientèle aux GAN, aux assurances GAN.
D'accord, très bien. Bon, on vous retient pas trop longtemps. On joue pour un support de téléphone portable France Bleu. Le nom de la spécialité vendéenne, vous savez, le pain avec
oui,
de l'ail.
Je connais très très bien, c'est le Préfou.
Mais oui, félicitations.
Et pourquoi
Stéphanie.
Vous connaissez très bien Stéphanie?
Parce que j'ai habité à Nantes.
Eh ben voilà. D'accord.
Donc je connais très bien le Préfou qu'on déguste à l'apéritif et c'est magnifique.
Et vous n'en trouvez pas par exemple au Lavandou du Préfou?
Et si, on commence à en trouver un peu partout.
Ah, bon Stéphanie, s'il vous reste encore un tout petit peu de temps, écoutez notre sujet d'après parce que c'est sur les pains de nos régions. Donc ça va peut-être vous intéresser. Est-ce qu'il y a un pain qu'on trouve au Lavandou particulièrement d'ailleurs?
Particulièrement non.
Non,
non, le même que partout.
Vous mangez quoi, vous, de la baguette le soir?
De la baguette, ouais, ouais.
La baguette parisienne, la couronne lyonnaise, la paillasse de l'Odève, là.
La baguette parisienne.
Mais ils me disent n'importe quoi, là, en régie. Ils me disent la tarte tropézienne. Je parle de pain, pas de pâtisserie. C'est vrai que c'est très bon.
On peut essayer un morceau de camembert sur de la tarte tropézienne, mais je suis pas sûre.
Ah non, oh là là, ça va être indigeste.
Bon appétit à tous.
Oh Stéphanie, on va s'arrêter là parce que on va tous être finir écœurés. Je vous envoie le support de téléphone portable France Bleu.
Merci beaucoup.
Et on vous souhaite un bon courage pour le boulot cet après-midi. On vous fait plein de bises.
C'est gentil, merci.
À bientôt Stéphanie.
À bientôt.
Bonne journée,
au revoir.
France Bleu se lance dans l'aventure du trophée Rose des Sables. Vous voulez assister à l'arrivée de Sœur Alirette 100% féminin au Maroc? France Bleu vous offre deux week-ends pour deux personnes à Marrakech du 25 au 27 octobre. Pour rejoindre l'aventure du trophée Rose des Sables et jouer, rendez-vous sur francebleu.fr.
France Bleu et M6 craquent pour le bon pain. La meilleure boulangerie de France est repartie pour une nouvelle saison et ça se passe en Alsace et en Lorraine ce soir à 18h40 sur M6. Des boulangers, leur pain et leurs spécialités parfois étonnantes à découvrir aussi avec France Bleu. Pour ne pas perdre une miette de la meilleure boulangerie de France sur M6, rendez-vous sur France Bleu et sur francebleu.fr.
francebleu.fr. Tout France Bleu en replay, quand vous voulez, où vous voulez, comme vous voulez.
Tout France Bleu est sur francebleu.fr. France Bleu aime les gens. Le nouveau Christophe Maé.
Il y a des gens du voyage, il y a des gens qui voyagent. Des gens qui restent et des gens de passage. Il y a des gens qui planent et ceux qui touchent le fond. Des gens qui dorment et des gens dorment son. Il y a des gens divers et il y a des divergents. Des gens qui espèrent et des gens d'Abidjan. Et y a des gens du nord, des gens du sud. Des vies douces et des vies rudes. Et y a des gens heureux, des vies tristes qui dorment dehors. Et y a des gens heureux.
Les gens, Christophe Maé. Un coup de cœur France Bleu.
Ah là là, je reconnais cette intro. Surtout là. Ça vous dit quelque chose, Denis?
Non, mais moi, je ne perds pas une miette de ce que vous dites avant le pain.
Vous avez faim, c'est normal, il est 13h30. À la maison, je suis sûre que vous êtes en train de vous dire « Ah là là, mais elle va nous le dire, qu'est-ce qu'il chantait ?» Mais oui, mais je reconnais. Maintenant, je vais vous faire patienter encore un petit peu. Il avait une voisine sympa qui s'appelait... Bah oui, elle s'appelait Caroline. M6 Solar, qu'on entend maintenant dans une heure en France. Si vous êtes affamé, il faudra encore un petit peu avoir de la patience. On parle des pains de nos régions dans une heure en France. Et puis juste après, on part entre copines. Peut-être qu'il y en a une d'entre vous qui s'appelle Caroline, qui nous écoute et qui se dit « Tiens, je partirais bien en voyage en Grèce. »
Mais pourquoi elle parle de Caroline?
Si c'est le cas, elle nous appelle avant la fin de l'émission. C'est pas possible de réunir tout ça. M6 Solar.
J'étais cool, assis sur un banc. C'était au printemps. Il cueille une marguerite. Ce sont deux amants, overdose de douceur. Ils jouent comme des enfants. Je t'aime un peu beaucoup, à la folie passionnément. Mais à la suite d'une douloureuse déception sentimentale, d'humeur chaleureuse, je devenais brutal. La haine d'un être n'est pas dans nos prérogatives. Tchernobyl, Tchernobyl, jalousie radioactive. Caroline était une amie, une superbe fille. Je repense à elle, à nous, à nos cornets bannis. À sa boulimie de fraises, de framboises, de myrtilles. À ses délires futiles, à son style pacotille. Je suis las de traits qui piquent ton cœur. Las de traits qui piquent ton cœur. Las de traits qui piquent ton cœur. Caroline. Cherche votre bonheur. Je suis l'homme qui tombe à pique pour prendre ton cœur. Il faut se tenir à carreau. Carreau, ce message vient du cœur. Une pyramide de baisers, une tempête d'amitié, une vague de caresses, un cyclone de douceur, un océan de pensées. Caroline, je t'ai offert un building de tendresse. J'ai une peur bleue, je suis poursuivi par l'armée rouge. Pour toi j'ai pris des billets verts, il a fallu que je bouge. Pyromane de ton cœur, canadaire de tes frayeurs. Je t'ai offert une symphonie de couleurs. Elle est partie, mazo, avec un vieux macho qu'elle avait rencontré dans une station de métro. Quand je les vois main dans la main, fumant le même ego, je sens un pincement dans son cœur, mais elle n'ose dire un mot. C'est que je suis las de trêve qui pique ton cœur. Las de trêve qui pique ton cœur. Las de trêve qui pique ton cœur, Caroline. Claude MC prend le microphone, j'enlève de rire à Gamofine. Pour te parler d'une amie qu'on appelle Caroline. Elle était ma dame, elle était ma cam, elle était ma vitamine. Elle était ma drogue, ma dope, ma coke, mon crack, mon amphétamine, Caroline. À l'envers, magnéto de la vie pour elle. Faut-il l'admettre, les larmes ont coulé. Hémorragie oculaire. Vive notre amitié, du passé, du présent. Je l'espère, du futur. Je suis passé pour être présent. Dans ton futur, la vie est un jeu de cartes. Paris, un casino, je joue les rouges. Cœur, carreau. L'as de trêve qui pique ton cœur. L'as de trêve qui pique ton cœur, Caroline. Je suis l'as de trêve qui pique ton cœur. L'as de trêve qui pique ton cœur. L'as de trêve qui pique ton cœur, Caroline.
Caroline, MC Solar, titre qui était sorti en 1991, qui était extrait du premier album d'MC Solar. Album exceptionnel qui sème le vent, récolte le tempo. Et bien, c'était considéré à l'époque comme un album pionnier du rap français.
Et maintenant, j'ai compris pourquoi vous parliez de Caroline.
C'est bien, vous a fallu 4 minutes 20.
Une heure en France. Frédéric Le Ternier. Denis Farou sur France Bleu.
Et on aime bien le pain aussi dans Une Heure en France. C'est pas pour rien qu'on est partenaire de la meilleure boulangerie de France sur M6. Et on est tombé en arrêt devant une carte de France avec l'équipe. La carte des pains régionaux.
Le pain tordu du Limousin, le bourguignon, la couronne lyonnaise, le brillé du Calvados, la faluche du Nord, le stressé, le chapelet, la fougasse, la paillasse de l'Odèche.
Mais elle est pas trop vite.
Le tordu du Gers, la michette de Provence, et je vous donne des dizaines d'autres maintenant.
Un docteur en ethnologie, anthropologie sociale écrit « Pain de boulanger », c'est aux éditions Gourcuff, Gradenigo. Elle est avec nous pour nous compter le pain. Bonjour Mouette Barboff.
Bonjour.
Comment est-ce que l'on peut faire autant de pain au goût différent, à la forme, à la texture différente, avec de la farine, de l'eau et de la levure?
Ah mais voilà, c'est ça qui est extraordinaire avec le pain, c'est qu'avec très peu d'ingrédients, on arrive à faire des centaines, sinon des milliers de pains différents. Avec des goûts différents, naturellement. Et voulez-vous qu'on parle de quelques-uns d'entre eux ?
Oui !
Avec plaisir. Avant, j'aimerais juste savoir quelque chose, si c'est une passion typiquement française, ou est-ce qu'il y a des équivalents dans d'autres pays, pas forcément avec le pain ?
Oh, je crois qu'on trouve des pains très différents dans tous les pays. Hein. Chaque pays produit une quantité incroyable de pain, puisque quand même c'était un aliment de base. Mmh. Et donc, ça explique aussi cette variété qui correspondait naturellement au milieu écologique, mais aussi à la créativité des gens. Et c'est tout à fait extraordinaire, c'est vrai.
Alors, donnez-nous quelques mots sur quelques pains. On va faire un rapide tour de France. Le brillé du Calvados.
Ah, le pain brillé.
Alors, le pain brillé du Calvados, c'est un pain de blé qui est pétri avec très peu d'eau et dont la pâte est broyée. C'est ça qui fait son originalité. Autrefois, on se servait d'une brie pour broyer la pâte. On pouvait le faire aussi avec les pieds, mais alors chaussé avec des sabots spéciaux ou même avec le coude. Le pain brillé, c'est un pain qui a une croûte lisse, fine, brillante, dorée, striée avec des coups de lame en surface et dont la mie est très blanche et très dense. Voilà.
Alors,
juste un petit portrait du pain brillé.
Ah, c'est un joli portrait déjà, beaucoup plus complet dans le livre que vous avez édité, qui est magnifique. C'est un livre d'art sur le pain, la boulangerie. Quelques mots sur la paillasse de Lodève.
Ah, la paillasse. Alors, la paillasse de Lodève, c'est un pain qui doit son nom au panier dans lequel on faisait fermenter la pâte. Et ensuite, la pâte était déversée sur une table et coupée en morceaux à l'aide d'une large racle en fer, que le boulanger appelle d'ailleurs un couteau. Et il coupait comme ça vient, ça veut dire qu'il n'y avait pas de morceaux pareils. Et alors, ces pâtons, ainsi découpés, il y en avait de toutes les formes, des longs, des ronds, des courts, des ventrus, et qui donnent de l'image d'un corps en morceaux, et qui font référence d'ailleurs à la légende de Saint Fulcran, qui était évêque de Lodève entre 949 et 1006, et particulièrement vénéré par les Lodévois.
Mouette Barboff, un mot aussi de la fougasse de Provence qu'on connaît bien au-delà de la Provence d'ailleurs.
Oui, c'est vrai. Alors la fougasse, elle est d'origine italienne, mais elle est très différente de la focaccia. C'est un pain plat, mmh. Et la pâte est entaillée avec un coupe-pâte, et le boulanger écarte les bords des entailles pour faire ce qu'il appelle faire la feuille. Et ça forme de très jolis dessins. Et ensuite, il enfourne la fougasse qui cuit pendant à peu près 15 minutes et qui doit se rompre à la main, se manger chaude à l'heure de l'apéritif, histoire de réveiller l'appétit.
C'est incroyable toutes ces histoires de pain. Vous dites que parler du pain de nos régions, c'est une autre façon d'aborder l'histoire de France.
Tout à fait, puisque ça dépend évidemment de l'amélioration de l'agriculture, de la technologie, au niveau du matériel utilisé par les boulangers. Ça dépend d'énormément de choses. Et naturellement, de la culture des céréales, puisque c'est quelque chose qui a beaucoup évolué au cours des siècles.
Mouette Barboff, quel est votre pain préféré à vous?
Mon pain préféré, écoutez, j'ai l'habitude de dire que mon pain préféré, c'est celui qui est bien fait. Ça veut dire que tous les pains sont bons à partir du moment où ils sont bien faits.
D'accord, mais vous êtes de quelle région, vous?
Ah, moi, je suis parisienne.
Ah, la baguette.
La baguette, naturellement. Ouais. Quand elle est bien faite, ce qui est le cas à Paris généralement. Et d'ailleurs, je soutiens un projet de patrimonialisation de la baguette. Voilà.
Et dire qu'on aurait pu parler du bourguignon, du tradipoire, du Loiret, du pain tourné, du Limousin, de la couronne bordelaise, du bougnat auvergnat, mais on s'arrêtera là.
Oui, ça fait beaucoup pour ça. Il y a le livre de notre invité.
En tout cas, si quelques auditeurs ont la curiosité d'en savoir plus, merci d'avoir cité le livre Pain de boulanger où tout ça est raconté en détail. Merci beaucoup.
Merci à vous, c'est un très bel album. Je sens que Denis va me le piquer. Il est magnifique ce livre, donc Pain de nos régions, c'est sûr qu'on en saura plus. Et on joue maintenant pour une montre France Bleu Sport. Dites-moi, quelle est la variété de pain le plus consommé par les Français? À votre avis, on vient d'en parler, si je vous dis que c'est autour de la capitale. Je pense que ça va vous aider. 0810 055 056, quel est le pain le plus consommé par les Français? Appelez-nous, puis on discutera d'une des spécialités de vos régions, pourquoi pas. Une heure en France, ça continue en musique avec Wilson Pickett. C'est un classique in the midnight hour. C'est déjà un petit peu passé, mais bon, on en profite quand même. Indémodable. In the midnight hour, c'était Wilson Pickett sur France Bleu pour accueillir Julien. Bonjour Julien.
Bonjour Frédéric.
Vous venez du Nord, Julien?
Oui, c'est ça.
Où êtes-vous précisément qu'on vous géolocalise?
Là, aujourd'hui, je suis à Amiens, mais j'habite entre Douai et Valenciennes.
D'accord. Et vous savez pas si votre GPS dans votre téléphone est américain ou européen, hein, Julien?
Non, pas vraiment, je regarde pas.
On en parlait dans les infos tout à l'heure.
Mais je pense qu'il est européen parce qu'il est précis.
Parce que quoi? Il est quoi?
Il est précis.
Ah, voilà. Bon, vous avez écouté, c'est très bien, Julien. Julien, on parlait des pains de nos régions. Est-ce qu'il y a une spécialité, vous, que vous aimez particulièrement dans le Nord, un pain spécial?
La baguette. J'aime bien la baguette.
Bon, alors la baguette, elle est plutôt parisienne, mais est-ce que vous pouvez me dire quelle est la variété de pain la plus consommée par les Français?
La baguette.
Eh ben justement, la baguette, effectivement, c'est la bonne réponse.
C'est une question très difficile ce mardi.
Oui.
Julien, donc vous repartez avec la montre France Bleu Sport, j'espère que vous ne l'avez pas.
Non, je ne l'ai pas.
D'accord. Vous faites quoi cet après-midi, Julien?
Je vais rentrer à la maison tranquillement, je vais reprendre la route.
D'accord, vous avez terminé le travail pour aujourd'hui?
Oui, là, je dépose mes colis, après je rentre à la maison.
D'accord, très bien. Mais écoutez, on vous souhaite un bon repos et merci de nous écouter, Julien.
Mais merci à vous.
Vous connaissez le nouveau Yannick Noah?
Oui.
Bah, il arrive.
Sur France Bleu Nord.
Ah, très bien. Bon, on va le réécouter ensemble.
En fait.
C'est Yannick Noah, c'est bien. On vous fait une grosse bise, Julien. À bientôt.
Gamin, écoute, faut que tu saches. On est soit voleur, soit volé. Et chacun se tue à la tâche. Qu'on soit la base ou le sommet. Les gens baissent les bras ou les ferment. Faut jouer des coudes pour exister. Ici tu gagnes ou tu la fermes. Mais laisse-moi te raconter. Petit, regarde cet étang. Des familles nagent contre courant. Petit, regarde tous ces gens. Et dansent et dansent dans le vent. Petit, regarde droit devant. Des hommes y dansent contre courant. Petit, regarde tous ces gens. Et dansent et dansent dans le vent. Mais allez, viens. Y'a pas que ton frère qui ton frère. Mais allez, viens, y'a pas que ta sœur qui ta sœur. Mais allez, viens, y'a pas que ton frère qui ton frère. Mais allez, viens, y'a pas que ta sœur qui ta sœur. Gamin, écoute, c'est pas fini.
tout est fake et frime, petite gloire. On confond rêve et jalousie, tout finira bientôt dans le noir. Les gens baissent les yeux ou les ferment, faut être la brute et le truand. Ici tu aimes ou tu t'enfermes, ah tu peux rire maintenant. Petit regarde cet étang, des familles nagent contre courant. Petit regarde tous ces gens, et danse et danse dans le vent. Petit regarde droit devant, les hommes y dansent contre courant. Petit regarde tous ces gens, et danse dans le vent. Mais allez viens, y'a pas que ton frère qui ton frère. Mais allez viens, y'a pas que ta sœur qui ta sœur. Mais allez viens, y'a pas que ton frère qui ton frère. Mais allez viens, y'a pas que ta sœur qui ta sœur. Y'a pas que ton frère qui ton frère.
Mais allez viens,
y'a pas que ton frère qui ton frère.
Mais allez viens,
y'a pas que ta sœur qui ta sœur.
C'est le dernier titre de Yannick Noah. On vous le fait écouter sur France Bleu. Ça s'appelle Viens, vous l'aurez compris. Et donc, il célèbre le vivre ensemble sur ce titre signé par Boulevard Désert. France Bleu. Et nous poursuivons. On ne va pas oublier les vacances comme ça et même peut-être préparer les prochaines. Est-ce que vous connaissez Copines de Voyage? Découvrir le monde entre filles. On ne se connaît pas au départ, mais on peut échanger avec celles qui cherchent la même destination avant de décoller.
Eh bien, on va tester avec deux copines qui sont parties, Audrey et Françoise, mais séparément. Hein. On est curieux de découvrir ces vacances sans se connaître au départ.
Et on commence avec Audrey qui a eu une seule expérience avec Copines de Voyage. Bonjour Audrey.
Bonjour.
Vous nous racontez votre expérience. Vous vous êtes inscrite sur le site Copines de Voyage et ensuite.
Oui, j'ai découvert ça sur les conseils d'une amie, puisque je cherchais à partir en vacances cet été, mais j'étais seule, je suis célibataire et je voulais partir faire quelque chose de mes vacances, mais je savais pas où ni avec qui. Et du coup, elle m'a dit, regarde, le concept c'est les Copines de Voyage. Donc j'ai fait ma curieuse, je suis allée sur le site internet. Et je suis tombée sur un voyage en Amazonie de 15 jours et j'ai vraiment craqué sur le contenu du voyage en lui-même, chercher quelque chose d'un petit peu baroudeur, et c'était ce qui était proposé dans l'énoncé. J'ai regardé un petit peu les avis qu'il y avait sur le site et très rapidement quelqu'un de chez Copines de Voyage m'a contacté pour me parler un peu du concept, parce que j'avais mis que j'étais intéressée, mais je m'étais pas encore engagée sur le voyage. Et du coup, c'est un système pour voyager entre filles. On a plein de voyages qui sont proposés partout
dans le monde. Mais Audrey, vos copines dans la vie, elles n'étaient pas disponibles?
Non, elles sont toutes soit maman, soit en couple, soit elles avaient déjà réservé leurs vacances, donc j'avais personne pour m'accompagner.
Alors,
un petit peu frileuse à l'idée de partir seule à l'étranger.
Oui, aussi, ça peut faire peur. Ouais. Ouais.
J'ai bien aimé votre expression. J'ai fait ma curieuse, je suis allée voir sur internet, vous avez bien fait. Est-ce que les copines de voyage sont restées des copines de voyage ou il y a un après, ne serait-ce que par correspondance depuis votre séjour?
Oui, tout à fait, parce qu'on a en fait les filles qui se sont inscrites dès que le voyage a été mis, a été posté. Il y en a qui se sont inscrites au fur et à mesure, et moi j'étais la dernière. Je me suis inscrite une semaine avant de partir, et c'était un groupe possible pour 10 personnes. Donc au moment où je me suis inscrite, il y en avait 8 dessus, et elles avaient créé un WhatsApp. Du coup, elles m'ont inclus dans le groupe WhatsApp. Du coup, on a échangé sur le avant, le pendant et le après. On est toujours en contact et c'est rigolo, ouais, parce qu'il y avait une partie de France, il y avait une qui venait de Suisse, moi j'arrivais de Bordeaux, il y avait une autre de Bordeaux aussi, après il y avait pas mal de Paris et une qui venait qui était
est-ce qu'elles avaient votre âge
unis.
Est-ce qu'elles vous elles avaient votre âge ou pas du tout?
La moyenne d'âge entre 28 et 44 ans.
D'accord, voilà, c'est
moi
très
j'en avais 35 et voilà.
D'accord.
Audrey, restez avec nous, on accueille Françoise. Bonjour Françoise.
Bonjour Françoise.
Oui.
Bonjour. Bonjour Françoise. Vous êtes partie, bonjour, vous, trois fois avec copine de voyage. Ça veut dire que vous êtes convaincue par ce système un peu particulier quand même.
Oui, oui, je suis complètement convaincue. Et en fait, bon, Audrey a bien résumé un petit peu le principe. C'est vrai que moi, j'ai un mari qui n'est pas disponible et des amis qui ne sont pas forcément aux mêmes périodes que moi. Et donc, j'ai aussi fait ma curieuse. Je suis allée sur le moteur de recherche et j'ai tapé « voyager entre filles ».
Vous n'avez jamais la crainte de ne pas vous entendre avec vos futures copines ?
Alors, j'ai voyagé trois fois. Et c'est vrai que sur mes deux premiers voyages, il y a eu un petit peu des tensions. Mais finalement, ça s'est bien passé parce que quand on réagit intelligemment, on se dit qu'à la limite, si une personne ne vous plaît pas, on la voit une semaine et puis on ne garde pas contact après. Mmh. Donc ne pas, pour les vacances, ne pas se gâcher les vacances pour ce genre de choses.
Est-ce qu'on reste un peu secrète, Françoise, ou est-ce qu'on se raconte nos vies comme avec des amis, finalement, des copines ?
Alors le fait de partager les chambres avec les personnes avec qui on s'entend bien permet justement d'échanger un petit peu sur des choses qui sont intimes. Et de créer du lien, parce que moi aussi j'ai gardé pas mal de contacts avec des copines que j'ai revues, certaines, et je sais qu'il y en a, il y a des copines communes qui sont reparties ensemble sur des voyages de copines de voyage.
Alors vous avez trois expériences. Audrey, qui est toujours avec nous, vous seriez prête à recommencer avec une autre destination l'année prochaine et d'autres copines par définition ?
Oui, tout à fait, oui.
Eh ben, très bien.
C'est assez satisfaite. C'était vraiment, je trouve que c'est vraiment un bon système d'échange. Moi, j'ai aussi la barrière de la langue parce que je suis nulle en langue. Et du coup, là, partir sur des groupes comme ça, il y a vraiment tout qui est pris en charge de A à Z. Là, j'avais deux escales pour arriver en Amazonie. On a aussi l'équipe qui est sur place qui prend contact avec nous sur le, par WhatsApp. Et en fait, on est quand même, enfin, c'est vraiment des vacances qui sont hyper cadrées. On est sécurisé tout le temps et l'équipe qui est sur place en Amazonie après nous a s'est occupée de nous pour nous trouver les super bons plans resto. On n'a pas eu besoin.
Ouais, c'est très encadré en fait.
Le temps qu'on a des fois quand on est en vacances là, c'est bien, c'est que je pourrais aller manger et tout ça. Bah là, du coup, tout était on a les meilleurs restos,
bien encadré.
Et on a vu les meilleurs coins. Et
Audrey, j'ai une question. Après, j'ai une question, mais il faut être très honnête. Est-ce qu'il y en a qui n'étaient pas vos copines?
Ah non, bon après moi je suis quelqu'un d'hyper sociable.
Ça s'entend Audrey.
Du coup, c'est agréable. En général je m'entends avec tout le monde. Et après il y en a peut-être avec qui j'ai plus eu de feeling que d'autres, mais non, dans le groupe il y avait vraiment un très bon groupe. Et j'aurais vraiment pas peur de retourner à...
Super.
L'inconnu, c'est pas le genre de chose qui me fait peur de ce côté-là. Moi,
donc comme
plus
Françoise,
peur de rentrer.
D'accord. Comme Françoise, pourquoi pas un deuxième ou un troisième voyage entre copines. Vous en avez très bien parlé toutes les deux. Ça fait envie, hein. J'ai envie de faire ma curieuse.
Ouais. Ce qui serait drôle, c'est qu'elles s'inscrivent toutes les deux au même voyage, alors qu'elles sont ensemble à la radio, mais elles ne se connaissent
exactement,
pas.
Exactement. Ce serait assez drôle. Bon, on va vous laisser discuter, les filles. Bon, Denis, vous l'avez bien compris, c'est pas pour vous, hein, de toute façon. Voilà. Copine.
Oui, mais j'ai fait
voyage.
Mon curieux. Et ça m'a bien plu.
On vous embrasse toutes les deux. On vous souhaite de très beaux voyages à venir, hein, mesdames.
Merci bien. Merci à vous.
Bonne journée. À bientôt.
Au revoir. Trouble so hard, ooh, Lord, my trouble so hard. Don't nobody know my trouble but God. Don't nobody know my trouble but God.
trouble so hard. Ooh, Lord, my trouble so hard. Don't nobody know my trouble but God. Don't nobody know my trouble but God.
Natural Blues et Moby pour refermer cette heure passée ensemble en France. On a fait encore beaucoup de choses aujourd'hui, Denis. On a commencé notre balade en Vendée, aux Herbiers, oui, avec un château.
Là où une demoiselle a été transformée en biche autrefois, mais on a tué la biche. Non, c'est pas drôle mon histoire.
Non.
C'est au château des Herbiers.
Et le loto du patrimoine va venir en aide hein, pour que les ruines soient consolidées et que ce château puisse revivre enfin ce qu'il en reste. Ensuite, on a fait le tour de France des pins de nos régions.
Oui, on dit la fougasse de Provence, mais elle est très différente de la fogassia italienne.
Focaccia.
On les connaît pas tous, pas les pins tous, régionaux. Non. On a encore du pain sur la planche.
Ouais, le pain brillé du Calvados, délicieux. On a appris encore beaucoup de choses. Et puis on a terminé avec copine de voyage, ça vous a plu. Ouais, hein.
Je trouve que vous avez fait votre curieuse quand même, avec vos questions un peu indiscrètes à Audrey et Françoise. Et votre mari et vos copines. Ouais,
j'ai rien demandé, celles qui ont raconté, mais c'est vrai qu'elles avaient l'air emballées toutes les deux par le site copine de voyage. On revient demain, 13h, Denis.
Demain, on passe un certificat d'études comme autrefois, mais un certificat d'études de région, ce sera dans le Morvan.
À demain.